ポカピーポカピー今日のチャレンジ。
C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec un arrière-fond de la présentation.
Bonsoir, entreprise du portefeuille, le délai d'une année donnée aux entreprises publiques pour devenir des sociétés commerciales expire dans 3 jours. Quel bilan dressé à ce jour du processus de transformation des entreprises publiques? 3 invités participent à cet échange. Maître Alexis Mangala, secrétaire exécutif adjoint du comité de pilotage de réforme des entreprises du portefeuille de l'État. Et avec nous dans ce studio, bonsoir Monsieur Mangala.
Bonsoir Monsieur Journaliste.
Al Kitenge, analyste économique et directeur général de Synergy Group, une société de consulting, également avec nous dans ce studio. Bonsoir Monsieur Kitenge.
Bonsoir Monsieur Jérôme.
Célestin Vunabandi, député national et ancien ministre du portefeuille, lui est en ligne. Monsieur Vunabandi, bonsoir.
Bonsoir Monsieur le journaliste.
Des réactions des auditeurs, nous en avons déjà beaucoup. Martin Zoukikis au Bandundu dit l'État veut une chose et son contraire. La politisation du secteur des entreprises ne portera jamais de bons fruits. Ouchai de Bounia en province orientale, le processus de transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales tarde car il y a simplement absence de volonté politique. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
C'est dans 3 jours qu'expire le délai d'une année donnée aux entreprises publiques pour devenir sociétés commerciales. Toutes ces sociétés devraient déjà élaborer leur nouveau statut. Elles devraient surtout évaluer leur patrimoine pour déterminer ce qu'elles valent. Le COPIREP, organe technique du gouvernement chargé de la réforme des entreprises publiques, a commencé hier une série de réunions avec les patrons d'entreprises pour évaluer le chemin parcouru. Mais l'on peut déjà dire que la transformation des entreprises en sociétés commerciales connaît du retard. Explication avec vous, Georges Kamdjova.
Retard dans le dépôt des bilans annuels d'abord. Au 31 mars dernier, seules 5 entreprises publiques avaient déposé leur bilan de 2009. Mais ensuite, on ne connaît ni le passif, ni l'actif, ni encore le patrimoine de certaines sociétés. Imaginez une boutique dont le propriétaire lui-même ne sait pas qui a sa dette ou à qui lui-même doit de l'argent. C'est à cela que ressemblent nos entreprises publiques, confie une source du portefeuille. Elle ajoute que cette situation existe depuis 20 ans pour certaines entreprises. Et si le patrimoine de la société n'est pas connu ou le bilan n'est pas certifié par un cabinet d'experts, difficile de fixer le prix d'une entreprise, difficile surtout d'ouvrir la porte aux privés intéressés par le rachat d'actions. N'est-ce pas 12 mois perdus pour rien? Non, la transformation est un travail de longue haleine, répond un responsable de COPIREP. Une proposition pour allonger ce délai est déjà sur la table du Premier ministre, ce qui permettrait aux entreprises de se mettre en ordre ou d'abuser de notre délai.
Merci Georges Kamdjova. Maître Alexis Mangala, quel bilan peut-on dresser à 3 jours de l'expiration de la date du processus de transformation des entreprises publiques?
Ok, merci Monsieur le journaliste. D'abord, j'aimerais rappeler que la transformation de l'entreprise publique du secteur marchand en société commerciale est une exigence légale. Donc, toutes les entreprises publiques nommément désigné dans le décret du Premier ministre signé le 24 avril 2009, ont l'obligation légale, conformément à l'article 4 de la loi sur la transformation, ils ont l'obligation de se transformer en société commerciale et d'être soumis au régime de droit commun. Alors, la transformation des entreprises publiques, c'est un processus qui est complexe. Il faut que les gens le comprennent bien. C'est un problème d'un processus complexe qui, en Afrique, n'a pas d'équivalent. Ce processus a été réalisé dans les pays de l'Est, qui passaient d'une économie communiste à une économie planifiée, à une économie libérale. C'est là où on a réalisé ce processus. En Afrique, il n'y a pas d'équivalent. Deuxièmement, précision, c'est que la transformation n'est pas à confondre avec désengagement de l'État. L'État transforme les entreprises publiques du secteur marchand en société commerciale, c'est pour permettre qu'ils soient gérés suivant les modes privés, suivant les règles du droit commercial que nous connaissons. Le désengagement de l'État, pour savoir si on va ouvrir le capital à un privé ou si on va conclure avec un privé, ça, c'est une autre opération et il ne faut pas confondre.
Alors, merci pour ces précisions, hein, mais à ce jour, combien d'entreprises ont été transformées et combien ne le sont pas encore? C'est la question même de cet auditeur Pépé Nisungi de la province orientale.
Voilà, le processus, comme je l'ai dit, il est complexe. Il y a plusieurs écueils qui se posent. Et je peux vous dire que depuis les réunions que nous avons commencées le mardi 20 avril, auxquelles vous avez fait allusion, il y a des entreprises qui ont presque terminé le processus.
Combien à peu près?
Jusque-là, il y en a au moins deux qui ont terminé le processus.
Lesquelles?
Je peux vous le citer, c'est la CMDC a signé le processus. Ils ont un bilan d'ouverture qui devrait être certifié. Et il y a également la RBF qui a terminé. Mais j'aimerais quand même signaler que ce n'est pas un processus qui est simple. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, les étapes pour transformer, le point de départ, c'est l'établissement de la situation patrimoniale de l'entreprise, comprenant un état détaillé de l'actif et du passif de la société, découlant d'un inventaire exhaustif et dûment certifié.
Donc, près d'une année après, ces entreprises ont été incapables de dresser leur
patrimoine. Je ne dirais pas qu'ils ont été incapables. Je ne dirais pas qu'ils ont été incapables parce que il y a des écueils qui ont été relevés dans ce processus. Par exemple, il faut financer les travaux d'évaluation des actifs, ou notamment les immobiliser. Or, vous prenez une entreprise, dont je ne cite pas le nom, qui a 360 immeubles pour lesquels il n'y a pas presque pour lesquels la moitié n'a pas de titre de propriété.
C'est l'OCPT.
C'est l'OCPT pour ne pas...
Voilà. Alors, donc, vous êtes... C'est un problème qui doit être réalisé, disons, qui est assez complexe. Il faut financer les travaux d'évaluation des actifs. Or, nous connaissons la situation de trésorerie de ces entreprises qui pose problème.
Alors, permettez, maître Mangala, que je vous arrête à ce niveau. Je vous redonne la parole dans un deuxième tour de table. Al-Kitenge, disons que le bilan est négatif. Hein. Il y a presque deux entreprises, presque, comme l'a dit maître Mangala, qui ont atteint l'objectif. Quelle est votre analyse?
Non, il y a zéro entreprise qui a atteint l'objectif. Il n'y a aucune société qui s'est totalement convertie. C'est ça la vérité. Mais il faut quand même remarquer quelque chose de très simple. Hein. Le délai est un critère de performance en management. Mais le délai n'a jamais été tenu dans ce pays. Et donc, c'est quand même dramatique qu'on se rende bien compte que tout le monde est en train de se battre pour devenir performant, mais nous, on pense que le temps est avec nous, alors que la situation est assez grave. Mais moi, ce qui me déplaît le plus dans cette situation, c'est toujours ce système de contrôle qualité de bout de chaîne. Vous savez, au contrôle qualité de bout de chaîne est opposé ce qu'on appelle l'assurance qualité. Ça veut dire que quand vous engagez un processus, on l'évalue au fur et à mesure. On l'accélère là où il est en ralentissement. On décélère là où il va trop vite, de sorte qu'à échéance, vous soyez sûr de pouvoir atteindre des résultats, mais au moins dans la grande partie. Mais en fait, une chose reste claire, c'est que le processus lui-même n'est pas très crédible. Il faut savoir que 20 ans sans bilan, et ça c'est la vérité de plusieurs entreprises, dont certaines qu'il ne faut pas citer les noms ici, mais il faut remarquer aussi que la vérité là-dedans, c'est que si pendant 20 ans vous n'avez jamais tenu de comptabilité sérieuse, il ne faut pas espérer qu'en un an vous puissiez être en mesure d'établir l'état des lieux financiers. Là-dessus, il faut savoir que la réalité, c'est que il faudra que l'on prenne des décisions politiques. La transformation des entreprises publiques de la situation antérieure aux situations nouvelles qui se trouvent être la forme commerciale, il y a une grosse composante de la décision politique. Il faudra qu'à un moment donné, on s'arrête et qu'on prenne des décisions d'autorité. Parce que si vous désirez aller par le chemin classique, nous ne nous en sortirons jamais pour la grande partie d'entreprises.
Mais maître Mangala, que vous avez suivi, a relevé que c'est un processus très complexe. Est-ce pour justifier ce retard?
Non. Maître Mangala a totalement raison et c'est un fonctionnaire. Il explique exactement comment ça devrait se faire.
Techniquement.
Et techniquement. Mais nous ne sommes pas dans une situation technique classique. Parce qu'il a bien dit lui-même, il y a des entreprises qui n'ont pas donné de résultats, qui n'ont pas donné de bilan depuis 20 ans, qui n'ont même pas pu faire la déclaration annuelle au 31 mars. C'est pour dire qu'en fait, c'est des situations difficiles et presque impossibles à gérer par les méthodes classiques. Il faut une décision politique. Et la décision politique, elle consisterait en quoi? À faire un état des lieux bien déterminé, et se donner un point de départ clair qui ne correspond pas nécessairement à la réalité technique, et être en mesure de démarrer une nouvelle entité. Je vous explique pourquoi. La plupart d'entreprises actuelles aujourd'hui ne donnent même pas les raisons sociales pour lesquelles elles ont été créées. On apprend. Cessation d'activité, OCPT, faillite, SNEL, si on demande aujourd'hui à la SNEL de payer toutes ses dettes, elle s'arrête. Et en fait, il faut être sérieux, à un moment donné, il faut savoir qu'on a besoin d'avoir une attitude positive différente de l'ancienne, dans la mesure où surtout, dans le cas de transformation classique, nous n'avons pas le temps matériel pour être en mesure de rendre ces canards boiteux en situation classique où elles peuvent non seulement se défaire de ces missions, mais également devenir rentables et payer l'État. Honorable Vounabandi, vous êtes ancien ministre du portefeuille. Quelle est votre lecture par rapport à ce processus de transformation des entreprises publiques?
Bien, monsieur le journaliste, moi je pense qu'il faut être réaliste et admettre plutôt que le constat est amer. Le constat, c'est un constat d'échec, c'est un constat d'impasse. Je dirais un constat d'impasse surtout à la lumière de l'article 17 du décret qui porte mesures transitoires, qui avait fixé un délai précis et un délai impératif qui était de 12 mois en dehors desquels la transformation est due se faire. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'un an après, rien n'a bougé. Aucune entreprise, comme on vient de le dire, n'a été réellement transformée. Et toutes les entreprises sont gérées de la même manière, la gabegie continue. Nos autorités continuent. Les autorités tutelles, les anciennes autorités tutelles continuent à intervenir comme par le passé, alors que la notion de tutelle a déjà été supprimée. Bref, on constate qu'aujourd'hui, rien alors n'a changé. Mais moi, je voudrais plutôt dire de quel côté se trouve le problème. Le problème, en réalité, c'est que lorsqu'on a fixé les mesures transitoires qui auraient dû permettre la transformation des entreprises, on n'aurait pas dû confier la tâche de piloter le processus transitoire aux dirigeants qui sont aujourd'hui décriés. On aurait dû plutôt confier certaines tâches de préparation de la réforme à des cabinets spécialisés. On aurait dû recruter des cabinets d'experts, des consultants internationaux besoin, qui devaient se charger de la préparation des statuts des différentes sociétés transformées, évaluer le patrimoine et fixer le capital. C'est pas une tâche qu'on aurait dû confier aujourd'hui aux dirigeants de ces mêmes entreprises, alors que l'on sait que ce sont ces mêmes dirigeants qui sont considérés comme, pour nombreux en tout cas, à la base de la situation chaotique qu'on connaît aujourd'hui. Bref, je voudrais, pour ma part, que nous soyons clairs et admettre qu'on se trouve dans une situation d'impasse, même si le coopérateur est en train de préparer un texte pour prolonger les délais, mais il faut constater que l'article 17 du décret qui avait fixé les mesures transitoires, cet article, avait fixé un délai impératif. L'article disait que la transformation ne pouvait pas dépasser 12 mois. À l'heure qu'il est, rien n'a été fait, ces entreprises sont gérées comme par le passé, et donc c'est un constat d'échec, c'est un constat amer, c'est une situation d'impasse.
Honorable Vounabandi, peut-on dire que la préparation de ce processus a été minimisée?
Oui, justement, lorsque j'ai entendu mon ami Mangala soutenir que le processus est un processus assez complexe, qui n'a pas d'équivalent en Afrique, il a peut-être raison. Mais alors, il aurait fallu tenir compte de cette difficulté-là, de la complexité de l'opération. Et donc, je crois que les délais qui ont été fixés, les délais d'un an, c'est des délais, de mon point de vue, qui n'étaient pas suffisamment raisonnables, mais c'est des délais plutôt qui auraient dû aussi tenir compte de la difficulté pour les gestionnaires actuels de ces entreprises eux-mêmes à se retrouver comme juge et partie, en train eux-mêmes, n'est-ce pas, de préparer la transformation de leurs propres entreprises. On aurait pu à ce moment-là, dès lors qu'on fixait un délai de 1 an, confier d'ailleurs comme c'était d'ailleurs envisagé initialement, je me souviens quand nous étions encore à la tête du ministère du portefeuille, on avait plutôt pensé que le processus de préparation aurait dû être confié à des cabinets d'experts qualifiés, n'est-ce pas, pour fixer le capital social des entreprises, qualifiés pour procéder à l'évaluation de leurs actifs.
Voilà, Maître Alexis Mangala, l'honorable Bounabandi se demande pourquoi cette tâche n'a pas été confiée hein, au cabinet d'experts. Là, j'ai sous les yeux, c'est une page hein, du journal Le Potentiel d'aujourd'hui, et là c'est la RVA qui lance à quelques jours du délai d'expiration, qui lance un avis d'appel d'offres pour un bureau d'études spécialisé avec une expérience dans les domaines de l'évaluation financière et tout ça. Finalement, ce processus n'a-t-il pas été tout simplement négligé?
Non, je crois que le processus n'a pas été négligé parce que on savait exactement au départ d'où on partait, où est-ce qu'on allait arriver. L'arrivée, c'est la transformation. Mais comme a soutenu mon collègue, ces entreprises sont dans des situations financières assez complexes. Et il a bien relevé qu'il y en a qui sont en retard même dans la production des états financiers. Il y en a qui ne connaissent pas le patrimoine qu'ils ont. Donc imaginez quelqu'un qui a fait une entreprise ne connaît pas exactement ce qu'il a. Donc il y a des problèmes de dettes croisées qui se pondent à ces entreprises, les dettes entre l'État et les entreprises et entre les entreprises. Il y a des problèmes d'assainissement de ces comptes-là qui se posent. Il y a des problèmes de pré-retrocédés, c'est-à-dire contractés par l'État, rétrocédés à ces entreprises-là, qui sont réglés. Et lors de la dernière évaluation, et c'est là où je voudrais dire à mon collègue de gauche que les évaluations régulières ont été faites. Et je voudrais rappeler que dès mai 2009, le Procopirep a expliqué clairement aux entreprises comment il fallait procéder pour réussir cette transformation-là, quelles sont les deux diligences qu'il fallait mener. Et un cabinet de consultants, Pricewaterhouse, a même été recruté pour expliquer à chaque mandataire comment il fallait le faire.
Et visiblement, vous n'avez pas été suivi. Les mandataires ne vous ont pas suivi.
Bon, ça c'est un autre débat. Mais le travail a été fait, le Copirep a expliqué, les consultants ont expliqué, des documents ont été produits, hein, des lettres, pour expliquer l'aboutissement du processus. Et pas plus tard que le 11 mars également. Le dernier point a été fait. Et c'est là où on a recensé essentiellement des écueils qui s'opposent en termes de financement des travaux d'évaluation des actifs et de financement des travaux, de certification de voie de redressement des états financiers pour certaines entreprises.
Mais Maître Mangala, il y a quand même des entreprises hein, telles que l'ONATRA, la RVA, la SNCC qui ont quand même amorcé ce processus depuis 2008 hein, avec les missions de stabilisation. Pourquoi ne sont-elles pas prêtes aujourd'hui?
Non, je crois que le vrai, parce que pour transformer une entreprise publique en société commerciale, c'est que le point de départ, c'est l'établissement de la situation patrimoniale. C'est ça le point de départ. Donc, tant que l'entreprise n'a pas établi sa situation patrimoniale, on ne peut pas avancer.
Mais le contrat de stabilisation devrait permettre d'avoir déjà ces éléments.
Non, le contrat de stabilisation n'a pas pour mission de transformer l'entreprise en société commerciale.
Ne fût-ce que fournir des éléments.
Oui, voilà. Fournir des éléments, c'est-à-dire que, également, j'aimerais également préciser, dire que les entrepreneurs à la case de part, non, il y a quand même une certaine évolution, les travaux sont en cours, mais malheureusement, ils ne sont pas finalisés. Et j'aimerais aussi ajouter qu'il y a un certain nombre de décisions que l'État devait prendre.
Des décisions politiques.
Des décisions politiques, notamment... Non, lui, il a parlé au sens d'une décision politique pour transformer. Non, des décisions politiques...
Non. Allez-y,
des décisions politiques, par exemple, pour dire, à la date d'aujourd'hui, est-ce que le barrage d'Inga, il faut le mettre dans la comptabilité de la SNL ou pas? Il y a des entreprises qui gèrent des biens pour lesquels l'État n'a signé aucun document avec l'État.
Voilà
le problème.
Al-Kitenga, je vous vois sourire, hocher la tête. Vous avez la parole.
Je reviens encore une fois d'abord auprès de notre collègue qui est en ligne.
L'honorable
Sonabandi, il faudrait bien qu'il ait un peu plus de positivité vis-à-vis des experts congolais, on a tendance à être des esclaves intellectuels. Il faut qu'on s'en libère. Les problèmes congolais doivent être regardés de très près par les Congolais, parce que, vous savez, c'est bien les consultants internationaux, c'est très bien les cabinets extérieurs, mais ils nous ont montré leurs limites. Hein. Vous savez, la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui elle est liée à l'incapacité des experts internationaux à pouvoir réglementer les problèmes locaux. Il y a une composante culturelle dans la gestion, et il faudrait bien qu'on en tienne compte. Je pense simplement que l'honorable Vunabandi lui-même est un expert congolais, il faudrait bien qu'il se fasse confiance et qu'il apprenne à faire confiance aux autres experts congolais, et c'est très important. Mais ce que je voudrais dire encore une fois, c'est que la situation d'aujourd'hui, et M. Mangala l'a décrit, en parfait fonctionnaire, oui, on doit passer par telle procédure, ça a été fait, mais il n'y a pas de résultat. Et tant qu'il n'y a pas de résultat, il faut questionner le processus. Aujourd'hui, c'est vrai, on peut prendre le temps qu'il faut pour être en mesure d'évaluer ce que vaut l'OCPT et ce qu'est le placement de l'OCPT, ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans. Est-ce que nous avons la capacité d'attendre 10 ans pour avoir une poste en bonne et due forme? La réponse est non. Est-ce que nous pouvons encore attendre 5 ans pour avoir l'ONATRA en état de pouvoir produire? La réponse est non. C'est pour ça que je dis, il faut des décisions politiques. S'il faut de l'argent pour qu'une entreprise qui n'en a pas puisse faire un certain nombre de travaux, l'État doit décider de mettre la main à la poche, financer ses travaux, très rapidement avoir le résultat, et en ce compris, même si cela veut dire donner un prêt à cette entreprise. À un moment donné, il y a des choses, la solution parfaite n'existe pas, il y a des choses qu'on doit pouvoir arrêter. Avec le temps qui nous reste, on considère qu'on a 60 ou 70% d'informations, on fait un bilan provisoire. Et on commence une nouvelle étape. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté de nos entreprises, c'est que si on leur demande de payer les taxes classiques, l'IPR, l'ICA et tout le reste, elles sont en faillite. La vérité, c'est que la plupart des entreprises publiques, dans leur état actuel, elles sont en faillite. On a deux choix. Soit on s'arrête là où elles sont et on tire une situation provisoire et on repart à partir de celle-là, soit on déclare la vérité. Ça veut dire qu'on déclare la faillite et on tire toutes les conséquences qui s'imposent. J'aimerais bien qu'à un moment donné ou à un autre, ce pays regarde ses problèmes en face. Ce n'est pas crédible de rester dans un pays comme celui-ci, 7 ans après avoir décidé de séparer la poste des activités télécom, et ça c'est une loi, on ne la met toujours pas en pratique. Ce n'est pas crédible de dire qu'on va redynamiser les entreprises, qu'on crée toute une entité, le copyright. Ça fait 6 ans ou 7 ans qu'elle existe, mais on n'a pas de résultat sur terrain. À un moment donné, il faudrait qu'on s'interroge sur notre responsabilité vis-à-vis de la communauté qui nous suit.
Il y a des auditeurs qui nous écrivent, Yves de Kinshasa, il ne faut rien attendre de cette réforme parce que ceux qui la président ne maîtrisent pas tous les paramètres. Je pense qu'il fallait commencer par dresser un état des lieux de nos entreprises. Cela permettrait d'avoir une idée de ce que l'on veut transformer. Mathieu Mpoukou dit, à la lumière de la loi qui porte sur les dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques en sociétés commerciales, il ressort que son application posera des problèmes très sérieux quant à l'avenir économique, voire politique de la RDC. Ceci démontre à suffisance que l'on est encore loin du bout du tunnel. Une situation qui risque de replonger la RDC dans les décisions du genre zaïrianisation, nationalisation et leur cohorte de malheur à Kitenge. Je vous vois hocher négativement la tête.
Non, il faudrait bien que les Congolais se rendent compte d'une responsabilité collective que nous avons. On n'a pas d'intérêt à avoir des cafards dans nos entreprises. On a besoin d'avoir des entreprises qui payent des salaires, qui payent des taxes et qui contribuent par rapport à leur mission. C'est bon pour l'État d'avoir des engins et des instruments qui fonctionnent. Ça ne sert absolument à rien pour l'État d'avoir des sociétés qui ne rendent déjà pas leur mission et qui ne sont pas ni économiquement ni financièrement viables. Il est très important qu'une entreprise qui rend des services et qui est payée s'acquitte de ses droits. Sinon, elle devient en concurrence imparfaite par rapport aux autres entreprises du même secteur qui sont dans le domaine privé.
Honorable Vunabandi, vous avez suivi Al Kitenge qui vous demandait d'être un peu plus positif hein, par rapport aux experts congolais. Il y a aussi des auditeurs qui nous écrivent, en plus vous allez réagir à cela en bloc. Venant Wabino de Matadi, comment une telle décision peut être respectée au moment où on assiste à des violations massives des lois du pays par ces mêmes dirigeants censés faire appliquer ces lois? Je pense que le succès de cette démarche réside dans le choix des nouveaux animateurs de ces entreprises.
Oui, monsieur le journaliste, j'ai l'impression que Antitégué ne m'a pas du tout compris parce que lorsqu'il m'invite d'être positif vis-à-vis des experts congolais, Peut-être que c'est ça, je disais, je serais un expert consultant, mais non. Je crois que j'ai dit tout simplement qu'au lieu de confier certaines tâches de préparation de la réforme aux gestionnaires des entreprises à restructurer, à réformer, il aurait fallu recruter des cabinets d'experts, consultants internationaux ou nationaux pour faire ce travail-là. Donc, il ne s'agit pas seulement des experts internationaux, je sais que le Congo, le pays, a effectivement des experts capables aussi de faire ce travail. Mais ce que j'ai déploré, c'est le fait qu'on a confié le même travail de préparation de la réforme ou de la transformation aux gestionnaires des mêmes entreprises, lesquels gestionnaires, n'est-ce pas, aujourd'hui de crier, on n'avait pas, en tout cas, on n'avait pas la certitude qu'ils avaient le profil requis pour faire ce travail. Je voudrais même aller plus loin. Je crois que l'évaluation, ou plutôt la préparation de la transformation aurait dû aussi être faite dans le cadre et à l'intérieur d'une structure du copyright, mais une structure qui malheureusement n'opère pas aujourd'hui, c'est le groupe sectoriel du travail. C'est un groupe qui est chargé de dresser l'état des lieux techniques, financiers, commerciaux et sociaux des entreprises, c'est ce que disent les textes, et proposer, d'après ce que disent les textes, une stratégie pertinente de réforme. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? On constate que cette structure, tout comme d'ailleurs le conseil technique au niveau du copyright, ces structures ne sont pas du tout opérantes. En réalité, même si la conduite de la réforme des entreprises publiques a été théoriquement confiée à Copyright, moi je considère que cet organe n'est pas du tout utilisé, ni rationnellement, ni suffisamment, alors que c'est un organe, n'est-ce pas, qui bénéficie de l'attention des bailleurs de fonds, alors que la réforme elle-même des entreprises publiques bénéficiait ou bénéficie jusqu'aujourd'hui de l'attention des bailleurs de fonds. Donc, il aurait fallu tout simplement, lorsqu'on a pris le décret portant mesures transitoires, décider que la tâche de préparation de la réforme, notamment l'évaluation du capital, l'évaluation patrimoniale, soit faite par des personnes qualifiées, des structures indépendantes, constituées des experts nationaux ou internationaux, et ce sont ces structures à qui on aurait pu, n'est-ce pas, confier un cahier de charges et fixer des délais, et là-dessus on aurait pu dire, écoutez, on le fait dans un an. Donc aujourd'hui, le gouvernement est pratiquement victime de ses propres études, en ayant tout simplement décidé d'une prime décision aussi importante, mais en ayant pas pris les dispositions nécessaires pour que cette décision, ces décisions soient appliquées judicieusement. Donc, voici là ma position. Je pense que lorsque des auditeurs considèrent qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le gouvernement ne sait pas lui-même appliquer ses propres lois parce qu'il est habitué à violer ses propres lois, je crois qu'ils n'ont pas totalement tort parce qu'on se rend compte aujourd'hui, par exemple, que nos entreprises publiques continuent à fonctionner exactement comme si la réforme n'avait pas encore commencé, comme s'il n'existait pas de loi sur la réforme du portefeuille de l'État. Aujourd'hui, vous constaterez, comme je l'ai dit par exemple, que le principe de tutelle, la tutelle continue à s'exercer alors qu'elle a été supprimée en vertu des lois qui ont été prises. Aujourd'hui, par exemple, vous allez constater qu'il y a des désengagements qui se font à la sauvette, des engagements dans certaines entreprises publiques et mixtes qui sont en train de se faire à la sauvette, alors qu'il existe une loi sur le désengagement de l'État. Donc je constate malheureusement, comme l'auditeur l'a si bien dit, que le gouvernement n'est pas à exécuter ou appliquer ses propres lois et c'est tout à fait dommage.
Merci à Maître Alexis Mangala et à Jean-Jacques de Lubumbashi Katanga qui dit « Je pense que des sanctions doivent être prises à l'endroit des mandataires qui traînent les pieds et n'ont pas réussi la mission au bout d'une année. »
Bon. Ça, c'est un point de vue, mais qui relève plus de l'application par les politiques et pas au niveau du copyright. Au niveau du copyright, nous faisons tout notre possible pour faire aboutir ce processus et faire prendre les décisions qu'il faut, mais nous ne gérons pas les mandataires. Hein, nous ne gérons pas les mandataires.
Mais comme technicien, ne serait-ce pas une solution à envisager, par exemple?
Bon, que l'État propriétaire, si l'État propriétaire le demande. Mais nous, Copyright, nous ne gérons pas les mandataires. Nous jouons un rôle de conseil du gouvernement. Nous suivons un processus avec des solutions que nous essayons de proposer. Par exemple, pour accélérer le processus, il a été demandé, le copyright a demandé à ces entreprises de fixer un capital social minimum de départ qui prenne en compte le capital actuel auquel on ajoute les plus-values de réévaluation en attendant que les travaux d'assainissement puissent être terminée.
En termes simples pour les auditeurs qui nous suivent.
Je ne sais pas comment je vais expliquer ça en termes simples, c'est technique, mais je ne sais pas, je crois qu'ils me comprennent. C'est, en fait, étant donné que les travaux traînent, hein, certaines décisions qui doivent être prises n'ont pas été prises, et pour accélérer le processus et ne pas laisser les entreprises dans une situation juridique incertaine, il a été proposé aux entreprises de fixer un capital social minimum de départ. Et quand les travaux d'assainissement seront terminés, hein, dans le délai qui sera fixé, on pourra soit augmenter, soit réduire le capital. Donc ceci pour vous dire que le copyright suit le processus, mais ne gère pas les mandataires. Ensuite, j'aimerais quand même rebondir et dire que non, il y a eu un état des lieux qui a été dressé. Il y a des audits qui ont été menés dans les entreprises publiques au moment de la création du copyright. Nous avons ces audits-là. Et ensuite, la classification des entreprises en société commerciale ou en société, en établissement public, se fait sur base d'une étude menée par des consultants nationaux.
Voilà, il y a, nous allons prendre une autre vague des réactions des auditeurs. Philippe Massica d'Ecologie au Katanga, par quel mécanisme le copyright compte contourner l'imposition de l'État dans les entreprises transformées afin d'éviter la mauvaise gestion qui est à la base des difficultés que connaissent bon nombre d'entreprises publiques de nos jours? Raymond Kasangala de Kinshasa, la réforme véritable des entreprises publiques devrait commencer par les animateurs, avoir des mandataires responsable au service du peuple et non au service de leur poche. Autrement, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Freddy Akakinda de Lubumbashi au Katanga, pourquoi notre gouvernement ne veut pas une privatisation partielle et temporaire de ces entreprises, ce qui conduira à confier la gestion de ces entreprises à des privés qui pourraient apporter un capital de relance au lieu d'être actionnaire unique? Gentil de Kananga au Kassai Occidental, qu'est-ce que le gouvernement pense du chômage qui va frapper les agents des entreprises publiques après cette réforme? Akitenge, très brièvement, un commentaire sur ces quelques réactions des auditeurs.
D'abord, mieux seront gérées les entreprises, plus techniquement seront-elles prises en compte, plus de création d'emplois il y aura. Et il est donc important qu'on arrête de ne rien faire, parce que dans l'état actuel des choses, la situation est très grave. Il faut donc faire quelque chose, rien que par principe. Et si on s'en sort positivement, bien entendu, il y aura des retombées positives. Mais je voudrais rebondir sur quelque chose qui m'a choqué. C'est l'honorable Vonabandi. Il dit il fallait que nos entreprises soient confiées à des personnes qualifiées. Mais excusez-moi, ça c'est une gifle terrible au copyright. Le copyright, depuis un temps, nous a placé les meilleurs d'entre nous dans les entreprises, sélectionnés par des méthodes très strictes, des tests. On a pris les meilleurs. On a vraiment pris les meilleurs de ce pays. C'est à cela qu'on a créé, on a confié les entreprises. Ce serait une insulte grave contre le copyright que de dire aujourd'hui que les gens qui sont là sont incapables, alors qu'on nous a fait croire que ce sont les meilleurs d'entre nous. En fait, je voudrais passer ça rapidement, mais je voudrais encore revenir sur quelque chose de très simple. La décision, au jour d'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, elle est politique. Parce que le copyright n'a pas la capacité de mettre en application même ses bonnes recommandations. Le copyright est ce qu'on appelle une entité irresponsable. Le responsable du processus, c'est le gouvernement. Croire que l'on peut empêcher le gouvernement d'agir et de prendre des dispositions parce qu'il a confié la mission, il a concédé la mission partielle au copyright est une erreur grave. Les questions de transformation des entreprises qui appartiennent à l'État sont des questions éminemment politiques, même si le choix est technique. Je voudrais terminer en disant, jusqu'à preuve du contraire, l'actionnaire unique, pour l'instant, pour ces entreprises, reste le gouvernement. Le tout, maintenant, est que ces entreprises soient en mesure de payer l'actionnaire unique par les deux mécanismes classiques. Un, les impôts, parce que l'État est le bénéficiaire des impôts, mais également les dividendes, si ces entreprises sont gérées de nature à pouvoir les dégager. Donc, il est très important que l'on comprenne que jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'on commencera le désengagement, qui est un autre processus, la transformation procède du besoin d'avoir des entités commercialement responsables.
Honorable Vunabandi, vous réagissez brièvement au propos d'Alkitenge. Il y a également des auditeurs d'Olimpoyo de Lubumbashi Katanga. Pourquoi le gouvernement fixe la date pour la réforme de ces entreprises alors que lorsqu'elles furent des vaches à lait pour lui, jamais une pareille décision n'avait été prise? Boker Njadima de Lodja au Sankourou, au Kassai Oriental, quelle sera la situation salariale des agents lorsqu'une entreprise publique se transforme en une société commerciale?
Bien, je voudrais rapidement réagir justement
à ce que vient de dire M. Alpfengue pour dire que je conteste. Je conteste ce qu'il a dit lorsqu'il soutient que les mandataires actuels ont été placés après recrutement très pointilleux. Je n'en suis pas sûr. Je sais qu'il y a eu quelque chose qu'on nous a présenté comme état de recrutement, mais je vous dis qu'aujourd'hui, je connais beaucoup de mandataires des entreprises publiques qui le sont aujourd'hui, mais qui ne sont pas passés par ce processus ou qui n'ont pas du tout satisfait ce processus. Donc, le clientélisme politique, cher ami, le clientélisme politique a joué et jamais de preuve. Deuxième chose, je considère que nous sommes ici en train de parler des mesures transitoires qui auraient dû conduire à la réforme effective, à la transformation effective. Je soutiens que ces mesures transitoires n'auraient pas dû être pilotées par les gestionnaires des entreprises parce qu'ils se trouveraient dans une position pratiquement de juge parti. Et la conséquence, c'est qu'on constate aujourd'hui qu'ils n'ont pas été en mesure de produire le travail qui leur a été confié, celui d'évaluer leurs actifs, les actifs d'entreprise et fixer le capital. Si ce travail avait été confié à l'organe par excellence chargé de piloter la réforme des entreprises publiques, c'est le COPIA, c'est l'organe technique du gouvernement qui a pour mission de piloter la réforme des entreprises publiques, et bien je suis sûr que les résultats seraient différents. Le COPIA dispose, comme je vous l'ai dit, de l'appui des bailleurs de fonds. Le COPIA dispose de la possibilité de recruter des experts, des consultants, et donc un tel travail aurait pu certainement être achevé s'il y avait eu un cahier de charges et s'il y avait des consultants qui avaient été recrutés en vertu de ce cahier de charges pour faire ce travail.
Merci.
Ceci dit, je réponds aux questions des auditeurs.
Très rapidement, je vous en prie.
S'il vous plaît.
Très rapidement, je vous en prie.
Oui, il y a eu des questions. La date, pourquoi est-ce que le gouvernement fixe-t-il une date sur la réforme? Non. Le gouvernement, il faut préciser à l'intention de notre auditeur que le gouvernement n'a pas fixé une date sur la réforme. Il a fixé une date pour finaliser les mesures, ou plutôt finaliser l'opération de transformation. Et donc, il était tout à fait normal, quand il y a un certain délai, il soit dit exactement qu'est-ce qui doit être fait pour que les entreprises soient effectivement transformées. Deuxième chose, la situation salariale. Je crois qu'ils ne font pas, et ça Mandela l'a bien dit, ils ne font pas confondre la notion de réforme des entreprises, mais c'est la notion de désengagement. Le fait qu'on cherche aujourd'hui à restructurer nos entreprises, à les réformer, ne doit pas créer l'état de la panique dans les rangs du personnel, qui fait penser que cela va donner nécessairement lieu à des départs massifs du personnel. Il y en aura certainement, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit là l'occasion de farouchir les gens. En réalité, le processus de réforme, c'est un processus qui doit être minutieusement préparé et qui ne conduit pas nécessairement au désengagement de l'État.
Merci, honorable. Nous passons sans transition à la deuxième partie de cette émission. Je vois Maître Alexis Mangala demander la parole avec un sens. Je vous l'accorde, Maître. Mais vous réagissez aux propos d'Alkitenge et de l'honorable Vunabandi. La question principale de cette deuxième partie, que faut-il pour accélérer ce processus de transformation des entreprises publiques en société commerciale quand on sait que l'article 17 qu'a évoqué l'honorable Vunabandi du décret du Premier ministre stipule que la période transitoire ne peut en aucun cas dépasser 12 mois.
Avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même rebondir sur ce que Monsieur Alkitenge a dit,
et l'honorable
Vunabandi s'est apporté une précision, c'est que le COPIREP a recruté les mandataires pour les postes de DG, DT, directeur technique, et DF, directeur financier. Et pour chaque poste, le COPIREP devait proposer 5 noms.
Voilà, ça c'est un débat. Ça,
c'est gouvernement.
Voilà, ça,
mais
c'est
la précision c'est également, c'est que le poste de PCA, président du conseil d'administration, directeur général adjoint, et administrateur était pourvu par les politiques.
Voilà.
Donc, il faut que ce soit bien clair.
Alors,
il faut que ce soit clair. Ce
donc, soit. L'implication politique gâche un peu tout dans la réforme, dans la transformation.
C'est vous qui
l'avez dit,
moi, je ne resterai là qu'à l'effet.
Alors, que faut-il pour accélérer
le processus? Je crois que chaque entreprise, nous avons demandé au niveau du COPIREP, parce que nous sommes dans les réunions avec ces entreprises, chaque entreprise a produit une feuille de route. Une feuille de route qui va jusqu'au 30 novembre de cette année 2010. Et dans cette feuille de route sont recensées toutes les tâches, tous les travaux qui doivent être effectués pour assainir totalement les comptes et arriver à avoir un bilan d'ouverture soit acceptable.
Et le prochain délai
Le prochain délai
fixé à
je ne sais pas, des propositions ont été faites et nous attendons que le décret relatif soit signé. Mais dans l'entretemps, pour accélérer quand même, nous avions demandé à chaque entreprise publique de déterminer un capital social minimum de départ qui permettrait de terminer, de finaliser les statuts et de donner la forme commerciale en attendant que les travaux d'assainissement puissent continuer. Et donc, ces travaux-là sont en cours, les dispositions ont été prises, notamment pour définir en faveur des entreprises, pour les entreprises, ce qu'on entend par passif non assurable, comment il faut traiter les dettes croisées.
Mais Maître Mangala, c'est bien tout ça, mais s'il n'y a pas de contrainte, n'allons-nous pas aller de report en report et les mandataires vont en abuser finalement?
Non, je crois que les reports, vous savez, moi je ne peux pas me prononcer maintenant. Nous sommes dans un processus, ils ont eux-mêmes fixé des feuilles de route, et comme disait mon voisin de gauche, celui qui ne respectera pas sa feuille de route, eh bien, les conclusions seront tirées par les responsables qui doivent la tirer.
Altitinger, vous proposiez déjà des décisions politiques. En plus, que faut-il pour accélérer ce processus?
On a deux choix, en fait. Avant de dire ça, j'ai envie de rebondir un petit peu sur ce que l'honorable Vounabandi a dit. L'honorable Vounabandi dit que l'État triche. Et de la bouche d'un ex-ministre et d'un député, j'ai bien peur de ce que cela veut dire. En fait, cela n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on a deux choix aujourd'hui. Soit on admet que très rapidement ces entreprises aient des bilans provisoires et que le travail continue pour être en mesure d'arriver à des bilans définitifs, mais entre-temps qu'ils terminent avec leur statut et qu'on sélectionne des managers, qu'on leur donne des objectifs et en somme là peut-être aussi un paquet financier pour que les entreprises reprennent de nouvelles activités, ou alors, et ça c'est aussi faisable, c'est carrément déclarer la faillite des entreprises qui sont réellement en faillite et sur les cendres de ces sociétés, créer de nouvelles sociétés avec de nouvelles missions. Entre-temps, la procédure de faillite étant suivie par une liquidation classique, tous les passifs et actifs qui sera suivi soient clarifiés au niveau du processus de liquidation. En ce moment-là, ça permettra beaucoup plus rapidement de commencer de nouvelles sociétés. Par exemple, au niveau de la poste, de commencer avec une nouvelle poste, avec des actifs connus, avec une situation comptable connue, et qui peut, par exemple, reprendre des activités tout de suite.
Ignace de Colosi vous demande, vu la complexité du travail à réaliser, combien de temps doit-on encore attendre? Plus on y va vite, plus on se retrouve encore en situation de remise en question des conclusions.
Non, il faut une attitude managériale. Il faut décider et faire des choses, et non pas décider, dormir, se réveiller une année plus tard. Et la transformation de ces entreprises publiques en sociétés commerciales, est un besoin immédiat. Et il est important qu'on se rende compte qu'il faut agir.
Honorable Vounabandi, vos solutions pour accélérer ce processus?
Bien, je voudrais d'abord dire que je m'exprime tout à fait librement. Je ne dois pas avoir la langue de bois. Donc, lorsqu'il faut dire que le gouvernement ou que l'État triche, il faut le dire. Il ne faut pas hésiter à le dire.
Absolument.
Qu'est-ce qu'il faut faire pour accélérer le processus? Moi, je crois que les schémas politiques que propose notre ami est tout à fait discutable, parce qu'aujourd'hui, ce que nous connaissons comme problème, c'est l'absence de volonté politique, justement, qui a conduit à la situation que nous vivons aujourd'hui. Ce qu'il faut faire, il faut, je crois, faire les choses de manière tout à fait professionnelle, avec professionnalisme. Il faut rentrer dans un schéma tout à fait technique, où il faut instruire le copyright à faire usage, n'est-ce pas, de ses compétences et des missions qui se retiennent, en prenant en main l'opération de fixation du capital social, l'opération d'évaluation patrimoniale de ces entreprises. Parce que ce sont les deux tâches en fait qui restent pour que la transformation soit effective.
Merci.
Une fois que l'évaluation du patrimonial est faite, une fois que le capital social est fixé, une fois que les statuts sont déjà rédigés, et c'est des tâches qu'on peut confier à des experts,
à
la responsabilité du copyright, tout le reste ira comme sur le roulette.
Merci honorable pour cette intervention qui avait déjà pris des allures de conclusion. Maître Alexis Mangala, votre conclusion.
Bon, ma conclusion est que je crois que la transformation des entreprises en société commerciale a pour objectif de les redynamiser, de les rendre compétitifs pour qu'ils ne puissent plus constituer un poids pour l'État. Le copyright a pris les dispositions pour que ce processus puisse réussir et arriver au bout.
Merci.
est irresponsable, l'acteur, c'est le politique. Et s'il faut agir, c'est le politique qui devra agir. Le politique commande le copyright ne commande pas le politique.
Merci, c'est par vous que nous terminons cette émission. Merci pour votre attention, chers auditeurs. Merci à l'équipe rédactionnelle de Dialogue entre Congolais, composée de Guy Maté, Kevin Kouti, Samuel Kachak et Mika Moura, qui ont travaillé sous la supervision de Martin Sebujangwe. La partie technique était assurée par Willem Lungamba et Eric Sidiakala. La présentation était signée à l'Aéro Mouchige. Au revoir.
Oh,